Et bon.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour avec vous, Nathalie Barge, pour vous présenter le bulletin d'actualité. Le congrès progressiste du nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a remporté la majorité des États aux élections régionales, selon les résultats officiels publiés ce lundi. Dans la matinée, l'APC contrôlait déjà au moins 21 sièges. Le parti démocratique populaire du président sortant, Goodluck Jonathan, a concédé sa défaite, disant qu'il fallait à présent se repositionner pour constituer une opposition crédible. Quelques 800 000 enfants ont été forcés de fuir leur foyer dans le nord du Nigeria à cause de la violence armée entre Boko Haram, les groupes d'autodéfense et l'armée, alerte l'UNICEF dans un nouveau rapport publié un an après l'enlèvement des écolières de Chibok. Intitulé « Enfance perdue », ce rapport révèle que le nombre d'enfants qui fuient le conflit à l'intérieur du pays ou qui traversent les frontières du Tchad, du Niger et du Cameroun a plus que doublé en un an. L'enlèvement de plus de 200 filles à Chibok n'est qu'un seul des événements tragiques qui se multiplient au Nigeria et dans la région, a déclaré Manuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. L'UNICEF rappelle qu'un grand nombre inconnu de filles et de garçons disparaissent régulièrement au Nigeria. Ils sont enlevés, recrutés par des groupes armés qui les utilisent comme combattants ou contraints de fuir l'extrême violence dans ces zones quasiment inaccessibles par les organisations humanitaires. En Guinée, dispersion musclée d'une manifestation de l'opposition. Des manifestants ont été blessés par balles lors de heurts avec la police à Conakry. Le point avec Idriss Fall.
L'opposition avait appelé à manifester contre l'insécurité après l'agression de son porte-parole le 4 avril à Conakry. Dans une déclaration signée le 24 mars à Paris, les opposants Sellou d'Alain Diallo, Sidi Touré et Lansana Kouyaté avaient aussi appelé à la reprise des manifs citoyennes pour dénoncer l'inversion du calendrier électoral. La commission électorale a fixé la présidentielle à octobre 2015 et à mars 2016, les locales qui n'ont jamais eu lieu depuis 10 ans. Et tôt ce matin, gendarmes et policiers ont été déployés dans les quartiers de Bambeto, autour de l'aéroport, à Hamdallaï et à Lambagné, dans la banlieue de Conakry. De violents affrontements ont suivi entre des jeunes et les forces de l'ordre à Hamdallaï. Un médecin de la clinique Jean-Paul II a affirmé à l'AFP qu'il y a eu au moins 3 blessés, dont un grièvement. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire de la majorité, accuse l'opposition de vouloir instaurer un climat d'instabilité dans le pays par des manifestations non autorisées.
Les Soudanais vont aux urnes depuis ce matin pour désigner leurs dirigeants à tous les niveaux. Des élections que le président Omar el-Béchir, en place depuis 25 ans, est assuré de remporter. Eddy Issango.
13,3 millions d'électeurs soudanais doivent théoriquement choisir entre M. Béchir et 15 autres concurrents. M. Béchir, qui a voté lundi, est assuré d'une victoire. Ces élections se déroulent sans l'opposition qui, de manière générale, les boycotte. Et c'est dans un contexte d'isolement sur la scène internationale que le pays va aux urnes. M. Béchir étant réclamé depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité au Darfour. L'organisation de ces élections est en fait dénoncée par les États-Unis et l'Union européenne qui estime qu'elles ne peuvent donner un résultat crédible et légitime. Les dialogues sont contournés, certains groupes sont exclus et les droits civiques et politiques violés selon Bruxelles. Jeudi, Béchir, âgé de 71 ans et au pouvoir depuis 1989, a libéré 2 opposants arrêtés en décembre. Une tentative visant, selon l'avocat des opposants, à alléger la pression internationale sur le régime, accusé de chercher à étouffer toute voix dissidente.
Les États-Unis et l'Europe font pression sur les factions rivales en Libye pour un cessez-le-feu inconditionnel, alors que les pourparlers visant à la création d'un gouvernement d'union ont débuté en Algérie. Des précisions avec Michel Joseph.
Nouvelle violence ce lundi à Tripoli où une bombe a explosé devant l'ambassade du Maroc sans faire de victimes. L'attentat est intervenu quelques heures après une attaque contre le complexe de l'ambassade sud-coréenne, tuant deux gardes libyens et blessant une troisième personne. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité pour les deux attaques. Dans une déclaration commune dimanche, le secrétaire d'État américain John Kerry et les ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie et Espagne ont appelé à l'arrêt immédiat des frappes aériennes et des combats terrestres en Libye, où des gouvernements divergents s'affrontent pour le pouvoir. Les pays occidentaux ont également souligné la menace grandissante du terrorisme en Libye.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique américaine, au lendemain de la confirmation de sa candidature à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton est en campagne dans l'Iowa, le premier État à voter lors des élections primaires. Ce premier déplacement officiel de campagne se fera sans grands discours ou grandes annonces. L'ex-sénatrice et secrétaire d'État a prévu une table ronde sur l'éducation et des réunions avec des familles. Les questions, se disent ses conseillers, de se mettre à l'écoute de l'électorat. D'autre part, le sénateur Marco Rubio de la Floride a confirmé sa candidature à l'investiture républicaine. Une annonce officielle est attendue dans les prochaines heures. Le président russe Vladimir Poutine a levé l'interdiction de vente d'armes défensives perfectionnées à l'Iran. À peine quelques jours après l'accord politique sur le nucléaire iranien, Moscou avait adopté cette mesure en septembre 2010, privant Téhéran de ses missiles sol-air S-300. Compte tenu des progrès dans les négociations entre l'Iran et les puissances mondiales, il n'y a plus de raison pour cette interdiction, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Israël a critiqué la décision. Les écoles de la partie rebelle d'Alep dans le nord de la Syrie seront fermées pendant au moins une semaine après un raid sanglant du régime syrien sur un établissement. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des militants, le bilan de cette attaque lancée hier est de 9 morts, dont 5 enfants. Deux quartiers rebelles ont de nouveau subi des raids ce matin. 7 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessées, toujours selon l'OSDH. Alep est divisé entre un secteur contrôlé par le régime et un autre contrôlé par les rebelles. Visite aux États-Unis du premier ministre irakien Haider al-Abadi, qui doit rencontrer Barack Obama demain à Washington. Il souhaite un soutien plus accru dans la campagne contre les djihadistes du groupe État islamique. Le patron du Pentagone, Ashton Carter, a promis que les autorités américaines prendront en considération toute requête du chef du gouvernement irakien. C'est sa première visite aux États-Unis en tant que Premier ministre. Fusillade dans une université de l'Est des États-Unis. Au moins une personne a été touchée par balle et un suspect est recherché selon l'AFP. Le campus du Wayne Community College à Goldsboro, en Caroline du Nord, était bouclé dans la matinée après que des coups de feu ont été entendus dans la bibliothèque de l'établissement. Apprend-on de sources policières, il n'y aurait pas d'autres victimes.
Dans Washington Forum ce jeudi 16 avril, le Mali, chronique d'une rébellion déclarée. Qui sont les principaux acteurs de ce conflit? Quels enjeux? Quelles solutions? Et surtout, quel avenir pour un pays tiraillé par des luttes ancestrales? Le dialogue est engagé, mais le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad tardent à se mettre d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Et voilà, vous écoutez VOA Afrique avec vous, c'est Nathalie Barge. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour Le Monde aujourd'hui avec Chérubin Dorsil et moi-même. À très bientôt.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.